Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport.
Salut à tous, c'est Arthur Merle, journaliste à Eurosport également.
On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission préférée sur l'actualité des transferts, émission que l'on rappelle, vous retrouvez sur Eurosport FC. Vous tapez Eurosport Football Club sur votre moteur de recherche et vous retrouvez toutes les émissions foot d'Eurosport.fr, Tour d'Europe, Mercredi Mercato, le FC Stream Team. Arthur, je suis très content de te retrouver. On a un joli programme cette semaine avec notamment l'avenir de Lionel Messi.
Exactement, l'avenir de Messi. On va tout simplement se demander quand est-ce que l'Argentin va rejoindre la MLS. Il y a encore des rumeurs qu'il envoie à l'Inter Miami. On va voir tout ça.
Deuxième partie, on parlera de João Félix. João Félix qui fait beaucoup parler de lui en Espagne et pas que pour des bonnes raisons. On se demandera si la fin du calvaire du Portugais à l'Atlético est proche ou non.
Et puis on conclura avec notre habituelle rubrique « Pourquoi on n'y croit pas ?» Et cette semaine, ça concerne Bruno Guimarães lié par The Sun au FC Barcelone, alors qu'il y a aussi des rumeurs qu'il envoie au Real Madrid.
Et puis bien sûr, pour finir cette émission, la partie fétiche préférée d'Arthur Merle, le Merca Quiz, avec, resté jusqu'au bout de cette émission, un appel à l'aide. qui ne sera pas d'Arthur Merle.
Oh, si, c'est mais... aussi prévu.
mais de Quentin. Restez avec nous jusqu'au bout de cette émission, Arthur. On va lancer cette émission avec l'information révélée par The Athletic, média britannique très sérieux, qui nous explique que l'Inter Miami, club de Major League Soccer, le championnat nord-américain, est maintenant confiant pour l'arrivée éventuelle de Lionel Messi. En 2023, la date est importante. Est-ce que pour toi, cette information-là, Arthur, est surprenante ?
Moi, elle ne me surprend pas tant que ça parce qu'il y a, selon moi, plusieurs conditions qui sont réunies pour une arrivée de Messi en MLS dès l'été prochain. La première, c'est la plus importante, c'est que dans le fond, il y a une volonté commune de Messi et de l'Inter Miami de faire un jour un bout de chemin ensemble. Messi, ça fait depuis 2020 qu'il le dit. Il l'avait dit à la Sexta notamment qu'il rêvait de jouer aux États-Unis un jour. Et puis l'Inter Miami l'a redit l'été dernier qu'il allait faire tout son possible, il l'a annoncé par la voix d'un de ses copropriétaires, qu'il allait faire tout son possible pour attirer un jour la star argentine en MLS. Donc déjà ça c'est un premier point qui est très important. L'autre point, c'est que Lionel Messi, il a complètement la main sur son avenir. Il a une option pour prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, mais s'il veut, il part librement dès l'été 2023, donc c'est important aussi. Un détail qui n'en est pas tant, c'est que l'Inter Miami va avoir des places pour les fameux joueurs désignés. Vous savez, chaque club de MLS a le droit à 3 joueurs désignés qui, en gros, dépassent le plafond salarial fixé par la MLS. Là, Higuain va prendre sa retraite. L'Inter Miami aura 2 places pour des joueurs comme Messi. Et puis voilà, vous ajoutez à ça des avantages fiscaux et peut-être la question de la Coupe du Monde, puisque je suis tenté de me dire que si Lionel Messi réussit une grande Coupe du Monde avec l'Argentine, il aura peut-être fait le tour de la question dans le football de très haut niveau.
Pour moi, c'est cet argument justement qui est le plus important, c'est l'argument de la Coupe du Monde, parce qu'on sait que pour Lionel Messi, c'est l'objectif ultime, c'est le seul trophée qu'il manque à son palmarès, et on sait à quel point il accorde une importance énorme à sa sélection. On l'a déjà vu prendre à plusieurs reprises sa retraite internationale, parce qu'après des échecs avec l'Argentine, c'était très difficile pour lui moralement de remettre la machine en route. Et donc effectivement, s'il y a une éventuelle victoire de l'Argentine en Coupe du Monde, ça risque d'être une fin en soi et de donner envie à Lionel Messi de finir sa carrière là où il a envie de la finir, c'est-à-dire à Miami, en tout cas en MLS, parce que c'est quelque chose qu'il a toujours évoqué. Et d'ailleurs, tu évoquais ça... déclaration qui date de décembre 2020, on peut la citer précisément. Il avait dit à la Sexta, j'aimerais jouer aux États-Unis un jour, Ça a toujours été l'un de mes rêves, mais je ne sais pas si ça arrivera. Il avait aussi échangé avec David Beckham, donc qui est le propriétaire de l'Inter Miami, pour dire peut-être qu'un jour tu m'appelleras pour que je rejoigne ta franchise. Donc cette volonté-là, elle est sûre, on peut y croire. Il y a quand même quelque chose qui, moi, me fait beaucoup douter. Bah, c'est tout simplement l'aspect sportif, qui est quand même évidemment très important aux yeux de Lionel Messi. Et j'ai du mal à imaginer qu'un Lionel Messi, dans la forme qui est la sienne actuellement, c'est-à-dire brillante, il est très efficace depuis le début de la saison, et on sent aussi qu'il y a un vrai épanouissement au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Et j'ai du mal à imaginer que si tout cela dure jusqu'à la fin de la saison, ils se disent « bon bah ça y est, c'est la fin, j'ai fini ma carrière en Europe, je peux aller m'amuser en MLS ». Pour moi, c'est le seul frein. À la limite, j'aurais encore plus cru à cette information la saison dernière, quand ça se passait pas très bien au Paris Saint-Germain. Là, j'ai un petit peu plus de mal à l'imaginer, même s'il y a ce facteur Coupe du Monde qui est très important.
Mais c'est pour ça que la question de la temporalité est très importante. C'est que si vous repoussez cette rumeur à 2024, tout d'un coup, ça devient peut-être encore plus probable, puisque Messi aura une saison de plus de très haut niveau dans les jambes. Une année de plus au compteur aussi, il aura 36 ans, si je ne dis pas de bêtises, à ce moment-là. Et l'Inter Miami, de son côté, on le rappelle, est rentré assez récemment en MLS, c'est une ligue fermée. Ils sont rentrés en 2020. L'Inter Miami qui essuie actuellement des sanctions par rapport à ce qu'ils avaient fait avec Blaise Matuidi, ils avaient dépassé un peu ce fameux plafond qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, une année de plus, c'est une année pour l'Inter Miami de mieux structurer aussi sa franchise, de libérer des fonds pour aussi mieux entourer Lionel Messi, parce que Lionel Messi qui rejoint Miami, c'est bien, mais je suis quand même convaincu qu'il ne rejoindra pas une franchise qui n'a aucune chance de remporter le championnat à la fin de la saison. Donc il y a ça qui est quand même à prendre en compte aussi. Après, je trouve qu'une arrivée de Messi quand même en MLS, ça, c'est pas tout à fait la logique de la MLS actuellement. Bien sûr, il y a des noms ronflants qui ont rejoint le championnat nord-américain ces derniers temps. On pense à Bale, on pense à Insigne. Mais la politique globale quand même aux États-Unis en ce moment, c'est de former, d'axer vraiment sur la formation, d'investir dans les infrastructures. Et il y a de plus en plus d'ailleurs de jeunes joueurs qui débarquent de MLS en Europe. Donc je trouve que ce serait quand même un petit peu à contre-courant de voir un aussi gros mouvement vers la MLS.
Oui, après je pense que cet argument-là, il tient moins pour Messi que pour tous les autres joueurs finalement, parce que Messi c'est vraiment un accélérateur de particules pour un championnat qui a besoin encore de croître, comme c'est le cas pour la MLS. Finalement Messi c'est l'équivalent de ce qu'était Beckham ou Zlatan quand ils sont arrivés en MLS, c'est vraiment un joueur qui va tout faire exploser en termes de revenus, en termes d'exposition. Ouais. Parce que si Messi va en MLS, on le regardera certainement aussi en Europe. Un peu comme on avait suivi ce qu'avait fait Zlatan Ibrahimovic notamment. Donc pour moi c'est un petit peu particulier. On peut rappeler quand même que pour The Athletic, l'information de The Athletic parle bien de 2023. Et ne parle même pas de cette option de prolongation de contrat au Paris Saint-Germain pour 2024. C'est quand même très important. Tu l'as dit, c'est Messi qui a la main quasiment sur son avenir. S'il veut rester au Paris Saint-Germain, il y a quand même de grandes chances que le Paris Saint-Germain accepte d'activer cette option, sachant en voyant la saison qu'il est en train de faire. Il y a quand même un facteur qui est à prendre en compte. Bah, c'est la question financière aussi au Paris Saint-Germain, parce que le club de la capitale a quand même des difficultés vis-à-vis du fair-play financier, que les salaires des trois stars de devant, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, pèsent très lourd, et qu'on imagine mal que le PSG ait planifié à moyen terme de conserver ces trois joueurs-là. On avait déjà beaucoup parlé du possible départ de Neymar l'été dernier. Maintenant, c'est Kylian Mbappé qui va possiblement quitter le club dès l'été prochain. Donc, tout ça aura quand même un rôle à jouer dans l'avenir de Lionel Messi si lui souhaite rester au Paris Saint-Germain. On rappelle quand même, depuis le début de la saison, avant ce match de ce soir en Ligue des Champions, ce mercredi soir, entre la Juventus et le Paris Saint-Germain, Lionel Messi, c'est 17 matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts, 13 passes décisives, ça veut dire qu'il est décisif en moyenne toutes les 60 minutes, c'est impressionnant.
Ouais, la question c'est combien de temps ça va durer. C'est là que la question de sa prolongation ou non au Paris Saint-Germain se pose aussi, parce qu'on finalement on s'est assez peu mis à la place du Paris Saint-Germain, d'un point de vue financier si, mais d'un point de vue sportif. Est-ce qu'on prend le risque de le prolonger encore d'une ou deux saisons avec, bon, on vient de le dire, le salaire que ça implique. Je pense que la question va se poser dans les têtes parisiennes, ça fait un petit peu débat. Bon, on va voir comment ça se passe, mais on l'a déjà dit, la Coupe du Monde et la fin de saison déjà va nous donner beaucoup de réponses. Si on retrouve un Lionel Messi touché physiquement et beaucoup moins performant sur la seconde partie de saison, je pense que ça va répondre à une bonne partie des questions qu'on se pose. Dernier petit détail peut-être qu'on n'a pas évoqué, c'est quand même la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, je dis pas de bêtises. Donc Messi en MLS, ça serait l'équivalent de Mbappé au PSG juste avant la Coupe du Monde au Qatar. C'est l'un des arguments pour lesquels Paris a tant forcé pour prolonger Kylian Mbappé. Donc je me contredis par rapport à ce que je disais un peu plus tôt. Mais effectivement, la MLS fera après un très grand coup en termes d'image avant la Coupe du Monde en recrutant Lionel Messi.
Je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet qui risque d'évoluer avec la Coupe du Monde et surtout après, parce que Lionel Messi devrait entamer les négociations sur son avenir dès la fenêtre hivernale au mois de janvier.
Ouais.
On peut passer à notre deuxième sujet, João Félix, l'attaquant de l'Atlético Madrid qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines en Espagne et plus particulièrement à Madrid. Pourquoi ? Parce que ça se passe pas très bien sportivement. Et ça se passe pas très bien non plus en dehors du terrain, à tel point que l'Atlético est un petit peu tiraillé entre l'envie que ce joueur qui a coûté très cher à l'Atlético, 127 millions d'euros exactement, explose au sein de ce club, et puis cette incapacité pour le Portugais à s'adapter au cholisme et à vraiment être régulier sur la durée.
On vous a mis quelques chiffres qui vont s'afficher pour ceux qui nous regardent en vidéo. Il y a eu vraiment deux temps dans la saison de João Félix. Il y a eu ce qui s'est passé avant la trêve internationale, c'est-à-dire 495 minutes sur 8 matchs, une moyenne d'un peu plus d'une heure par match joué. Et ce qui s'est passé après la trêve de septembre, 10 matchs pour 145 minutes de jeu en tout. Le calcul est relativement vite fait. On est à moins de 15 minutes de jeu en moyenne. Donc il y a vraiment eu une césure au moment de la trêve. Alors là, j'allais dire, on est presque sur un troisième temps, puisque João Félix a fait une très bonne entrée face à Cadiz en championnat le week-end dernier, puis il était titulaire lors de la défaite contre le FC Porto cette semaine en Ligue des Champions. Est-ce que ça va durer? Ça, on ne peut pas pour l'instant le dire. Mais il y a eu vraiment quelque chose qui s'est cassé. Comment l'expliquer? C'est compliqué. Alors bien sûr, il y a des relations froides avec Diego Simeone. Je vous lis une de ses déclarations. Qui est assez récente. Il a fait une bonne pré-saison, ça avait bien commencé avec la Juventus, Manchester en pré-saison. Il avait bien joué avec de bonnes performances. Maintenant, ses performances sont moins bonnes. Un autre coéquipier joue parce que João est le même que les autres coéquipiers. Il est le même que Morata, Correa, Cunha, Griezmann. Autrement dit, pour Simeone, il n'y a pas Félix et les autres. Il est juste un joueur de rotation, entre guillemets. Il y a peut-être un petit décalage à ce niveau-là avec la vision que la direction madrilène a de sa star portugaise.
Totalement, parce qu'il y a l'aspect, encore une fois, financier. Si la direction de l'Atlético a investi 127 millions d'euros sur ce joueur, c'est que vraiment, il y a une volonté de mettre ce joueur au centre du projet. Pourquoi ? Parce que c'est le profil idéal pour, globalement, c'est l'équivalent de Haaland à Manchester City ou de Kylian Mbappé au PSG. Toute proportion gardée sur le talent du joueur, mais en tout cas sur la dimension ou en tout cas l'envie de construire autour de ce joueur-là, c'est un petit peu ça. Le seul problème, c'est qu'il y a cette incompatibilité avec Simeone. Et tu évoquais les raisons. Je pense que la raison, elle vient des deux côtés. Elle vient aussi du joueur qui, parce qu'il est jeune, parce qu'il a coûté ce prix-là et parce qu'il a ce talent-là, il est impatient. Il a envie de jouer, il a envie d'être un cadre de son équipe. Et donc, après 4 saisons quand même, ça commence à faire long, ouais. Eh bien, il ne comprend pas qu'il soit encore, comme tu l'as dit, un joueur de rotation, en tout cas un joueur en concurrence avec les autres attaquants. On vous a fait d'ailleurs un petit récapitulatif de l'évolution de son temps de jeu depuis qu'il est arrivé à l'Atlético. La première saison, c'était 36 matchs, soit 68 minutes par match en temps de jeu. Ensuite, c'était 40 matchs, 59 minutes par match. Puis 36 matchs en 2021-2022, 55 minutes par match. Et puis là, depuis le début de la saison, on est sur une moyenne de 39 minutes par match. Donc on voit vraiment que son temps de jeu n'a cessé de se réduire au fil des saisons. Et ça s'explique aussi par le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético.
Ouais, complètement. On peut mettre ça en parallèle avec le retour de Griezmann. En gros, les deux premières saisons sans Griezmann, bon, tu viens de le dire, Julien, il joue beaucoup. Depuis le retour de Griezmann, il joue de moins en moins. Évidemment, sportivement, ça peut s'entendre. Alors, les deux ont déjà été associés. Est-ce que c'était la meilleure association? Pas sûr, parce qu'il se marche un peu sur les pieds. Alors, Griezmann a peut-être un peu plus de volume, notamment par son travail défensif. Mais dans le système, en tout cas l'idée de jeu très minimaliste de Diego Simeone, il n'y a peut-être pas la place pour deux créateurs comme ça, en fait, tout simplement.
Ces deux joueurs qui ont les mêmes envies, alors, excepté effectivement le repli défensif qui est beaucoup plus important chez Griezmann que chez Félix, ces deux joueurs qui ont les mêmes envies, à savoir des joueurs qui veulent créer, qui veulent être à l'origine des occasions, et pas forcément, j'allais dire, pousser le ballon au fond du but. C'est vraiment des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon aux alentours de la surface. Et finalement, pour moi, l'erreur de l'Atletico, c'est aussi ça, c'est d'avoir cru qu'elle pouvait faire avec Félix ce qu'elle a fait avec Griezmann, c'est-à-dire acheter un vrai talent, recruter un vrai talent, et réussir à le façonner à la méthode Simeone pour en faire un joueur complet, comme l'est devenu Griezmann sous Simeone. Parce que pour devenir ce joueur-là, il faut une mentalité qui n'est peut-être pas celle de João Félix.
Ouais, et à l'inverse, l'erreur de Félix est peut-être d'avoir rejoint un club qui ne correspondait pas du tout à ses qualités et à sa vision du foot. Tu l'as dit, João Félix, alors on l'a beaucoup comparé à Griezmann, on peut le comparer aussi à Griezmann dans la manière de vivre les moments difficiles. Griezmann, absolument, il s'est montré très digne quand c'était très compliqué pour lui. Félix, bon, il est beaucoup plus jeune. Il faut rappeler que ce transfert mirobolant, il s'est fait quand il avait 19 ans. Ouais. Donc ça peut monter à la tête aussi. Mais cette période-là, il ne la vit pas bien du tout. Et lui, il n'hésite pas à le montrer, qu'il le vit mal. Il y a eu plusieurs épisodes ces derniers temps. Le 12 octobre contre Bruges, il reste sur le banc. Il décide, quand il comprend qu'il ne va pas rentrer, de jeter son chasuble. Il y avait même eu une petite affaire sur les réseaux sociaux ensuite où il a, alors c'est toujours des histoires de likes, mais liké un post qui lui demandait de revenir à Benfica. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est toujours calculé quand on est dans ces sphères-là. Il y a aussi eu cette vidéo, qui a tourné après le match nul contre Leverkusen, qui a entériné l'élimination de l'Atlético de la Ligue des Champions, où on le voit dans une soirée peu après le match. Il y a un peu de fumée autour de lui. Est-ce que c'est lui qui fume? En tout cas, le média qui sort cette information-là l'affirme. Et puis, il y avait même eu cette image assez étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire, de Félix qui célèbre un but à l'entraînement comme s'il était en match et qui vient mettre son doigt devant la bouche en imitant un chute. Bref, là, on sent qu'on a dépassé quand même certaines limites dans la manière d'extérioriser cette déception.
Oui, on sent qu'il y a un joueur qui a une vraie volonté de se faire remarquer et de montrer qu'il y a un mécontentement. On parlait de la direction de l'Atlético qui est un petit peu tiraillée entre le cholisme et João Félix. Il y a une déclaration de Miguel Angel Rilmarín, qui est le PDG de l'Atlético, qui est très intéressante à ce sujet, qui avait dit « Je pense qu'il est le meilleur footballeur du moment », donc en parlant de João Félix. « Du moins, c'est ce que je ressens, et je ne suis pas certain que nous ayons fait une erreur. » Phrase très intéressante. « C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes d'adaptation à cause des blessures, à cause du Covid, à cause de la façon dont on comprend son jeu et celui de l'équipe. C'est l'affaire de tous, et c'est l'obligation de Diego Simeone de rechercher ce point d'équilibre. » Là, on est dans la meilleure illustration possible de ce qu'on essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, à savoir qu'il y a une vraie volonté pour l'Atlético de vraiment de faire exploser ce joueur. Parce qu'on rappelle quand même qu'il a signé pour 7 ans quand il est arrivé en 2019. C'est un contrat colossal, même s'il n'a pas un salaire énorme. Donc vraiment, il y avait une vraie volonté de confiance. On n'en voit pas le bout, globalement. Et on se demande même si la meilleure solution pour que tout cela se termine, ce ne serait pas un départ, finalement.
Avant qu'il rejoue là, contre Cadiz et qu'il soit titulaire contre Porto, ça devenait de plus en plus une évidence, même un départ. On avait de plus en plus de rumeurs. Il y a Marca qui a sorti il y a peu de temps une information selon laquelle l'Atlético a refusé une offre de 100 millions d'euros du Bayern Munich l'été dernier pour João Félix. Et on n'a pas trop de mal à imaginer que les prétendants seraient très nombreux si la porte d'un départ était ouverte. On se rappelle que Manchester City faisait partie des prétendants avant qu'il quitte le Benfica pour rejoindre l'Atlético. Là, c'est Manchester United qui est de plus en plus lié aussi aux joueurs ces derniers temps, surtout que Cristiano Ronaldo, l'aventure ne durera pas.
Et puis parce que Jorge Mendes aussi.
Et bien sûr parce que Jorge Mendes. Donc, les portes de sortie, je ne me fais pas trop de soucis pour lui, il y en aura. Les prochaines rencontres vont quand même être assez importantes avant la trêve hivernale. On va avoir une idée un peu plus précise de ce que va faire Diego Simeone avec João Félix. Alors après, est-ce que ça sera un peu politique aussi? Tu parlais de la déclaration du PDG, il y a le mot obligation quand même de trouver un équilibre, c'est un mot fort. Alors est-ce que Diego Simeone va avoir comme consigne de de temporiser un peu, de gagner un peu de temps en faisant jouer Joao Félix jusqu'à la Coupe du Monde pour ne pas avoir à gérer ce dossier-là en hiver, c'est aussi une possibilité quand on voit comment le dossier Griezmann a été géré ces dernières semaines.
Et sachant aussi que Diego Simeone, il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière en tant qu'entraîneur de l'Atlético. Il est fortement remis en cause. Alors, pas encore par la direction de l'Atlético, pas encore par tous les supporters de l'Atlético, mais par une partie des fans du club, parce que depuis quelques saisons maintenant, l'Atlético pédale un petit peu dans la semoule. On est obligé d'y revenir à chaque fois, mais il y a évidemment l'aspect financier. On se souvient, ces dernières semaines, on l'a beaucoup évoqué dans cette émission, à quel point l'Atlético a galéré pour pouvoir boucler l'arrivée définitive de Griezmann. On imagine que si un club intéressé met un gros chèque sur la table pour recruter Joao Félix, ça risque aussi de faire réfléchir la direction du club madrilène.
70 millions d'euros, sa valeur marchande estimée par Transfermarkt. On rappelle qu'il est arrivé pour 127 millions d'euros. Bon, après, les valeurs estimées, ça vaut ce que ça vaut. S'il y a eu effectivement une offre de 100 millions d'euros du Bayern de Munich, je pense qu'on s'approchera plutôt de ces prix-là, surtout que ça reste un très jeune joueur.
Un joueur qui, lui, est en pleine forme, en pleine bourre, qui n'a pas de problème au sein de son club, c'est Bruno Guimaraes, qui est excellent depuis le début de la saison et qui est tellement bon qu'il fait l'objet de nombreuses convoitises et qui fait aussi l'objet de notre rubrique « Pourquoi on n'y croit pas ?». Cette semaine, on a choisi l'information du Sun, révélée dimanche dernier, qui nous explique que Barcelone a fait du milieu de terrain brésilien sa priorité pour l'été prochain. Alors que le Barça ait fait du Brésilien sa priorité, pourquoi pas? En revanche, que le club catalan parvienne à s'offrir Bruno Guimaraes, là, on a un petit peu plus de mal à y croire, Arthur.
Effectivement, alors il y a plein d'aspects différents. Il y a l'aspect financier déjà. Le FC Barcelone, on l'a vu ces derniers mois, est dans une situation financière très délicate. Il y a des montages dans tous les sens pour enregistrer des joueurs. Alors se pencher sur un joueur comme Bruno Guimaraes, dont le prix va gonfler, il avait été acheté 50 millions d'euros bonus compris par Newcastle, avec ses performances en Première Ligue, vous pouvez en rajouter 20 ou 30 facilement. Donc il faut pouvoir s'offrir un joueur comme ça. L'information du Sun, c'est quand même que le FC Barcelone a essuyé un refus dans le dossier Bernardo Silva, donc parce que c'était trop cher, donc se rabat sur Bruno Guimaraes. Mais je ne suis pas sûr que la différence de prix soit si énorme que ça. Il y a la question du profil aussi, parce que je reviens encore sur cette information du Sun, mais si c'est recruter Bruno Guimaraes pour compenser l'échec Bernardo Silva, c'est qu'il y a un problème.
Un petit souci de ciblage.
Au niveau du ciblage, effectivement, des joueurs. Cette question de la sentinelle au FC Barcelone, elle est quand même centrale depuis plusieurs mois. Jusqu'à quand Busquets va continuer de jouer un rôle important? Jusqu'à quand on va se poser la question du positionnement de Frenkie de Jong, qui est un coup 8, un coup 6. Donc il y a tout ça aussi.
Qui est un coup titulaire indiscutable, un coup indésirable parce que trop cher.
Et puis peut-être une dernière chose, c'est qu'il y a eu une déclaration pas si anodine que ça de Bruno Guimaraes, qui a dans un premier temps éteint ces rumeurs de départ de Newcastle à court terme, mais qui a quand même dit en gros, les rumeurs au Real Madrid, ce ne sont que des rumeurs, mais c'est le plus grand club du monde. Donc si un joueur vise une arrivée au Barça un jour, généralement il dit pas que le Real Madrid c'est le plus grand club du monde.
Il y a quand même quelque chose qui peut nous laisser penser que le Brésilien restera pas éternellement à Newcastle, c'est la situation de Newcastle. Alors financièrement, le club se porte très bien parce qu'il a été racheté par un fonds saoudien et qu'il est considéré aujourd'hui comme quasiment le club le plus riche du monde. Le problème, c'est qu'il y a des règlements, il y a notamment le fair play financier, et que ce règlement-là, il inquiète beaucoup la direction de Newcastle. On vous a fait un petit récapitulatif des transferts entrant et sortant depuis le rachat par le fonds saoudien, donc c'était il y a un an, un peu moins d'un an. Globalement, c'est 237 millions d'euros de dépenses pour des joueurs achetés, et 2,30 millions d'euros de revenus pour des joueurs vendus, donc la balance est un tout petit peu déséquilibrée. Et c'est vraiment quelque chose qui inquiète la direction de Newcastle. On vous a repris également cette déclaration du directeur sportif Dan Ashworth au Times, qui nous explique qu'il ne veut absolument pas vendre Bruno. C'est un joueur de haut niveau, une partie très importante du projet du club. Mais à un moment donné, vous devez prendre en compte le fair play financier. Nous devons être en mesure de générer de l'argent pour en réinvestir. Autrement dit, si offre très importante il y a pour Bruno Guimaraes, il y a quand même peu de chances que Newcastle le retienne, même si, encore une fois, c'est le joueur quasiment central de cette équipe. Tu parlais de sa valeur. Il y a une chose qui est importante aussi à prendre en compte, c'est que l'OL a négocié un pourcentage à la revente, c'est 20% sur la plus-value, et que s'il a été recruté 50 millions d'euros bonus compris, on ne peut pas imaginer que Newcastle le cède à moins de 70-80 millions d'euros, parce qu'il y a une partie de cet argent qui va tomber dans les caisses de Lyon, et que bah, le but c'est quand même de dégager de l'argent pour pouvoir le réinvestir derrière, c'est ce qu'on vient d'expliquer avec cette déclaration du directeur sportif. Donc finalement, Guimaraes pourrait coûter peut-être même plus cher que Bernardo Silva, au-delà de ce fameux problème de ciblage. Donc s'il doit partir, ce serait très étrange que ce soit FC Barcelone, encore une fois compte tenu de la situation financière du club catalan.
Exactement. Après, on s'est penché aussi sur les autres joueurs que Newcastle pourrait vendre pour se soulager financièrement. Alors, des joueurs qui ont la même valeur marchande que Bruno Guimaraes, il n'y en a pas 50, il y en a un, c'est Alexander Isak, qui avait été acheté très très cher cet été. J'ai même oublié le prix du transfert, c'est 70-80, ouais. Dont la valeur est estimée à 50 aujourd'hui, mais bon, parce qu'il est blessé. Donc il y a Alexander Isak, il y a un petit peu en dessous Alan Saint-Maximin, 40 millions d'euros, qui pour le coup, lui, a quand même fait son chemin du côté de Newcastle. Il est quand même assez régulier, il pourrait peut-être aller taper plus haut dans les mois à venir.
Et qui a un profil rare aussi, c'est un profil
exactement,
de dribbleur que les clubs recherchent beaucoup.
Très percutant, de vrai ailier pur en fait, qu'on trouve assez peu aujourd'hui. Et puis derrière, vous quand même vous descendez assez nettement. Vous tombez sur Sven Botman qui est à 35 millions d'euros. C'est pas sur lui que Newcastle va faire a priori la plus grosse plus-value. Donc voilà, il y aura assez peu de solutions de secours en termes de vente si Newcastle veut vraiment renflouer les caisses. Après, il y a quand même quelque chose d'important à prendre en compte, c'est que Guimaraes, il a un côté, je trouve, affectif qu'il avait déjà montré à Lyon. Dans une interview, il a dit qu'il voulait devenir une légende à Newcastle. C'est quand même des mots forts parce que cette interview, la phrase d'avant, il dit en gros, je ne me concentre pas sur les rumeurs, je ne pense qu'à Newcastle et à la Coupe du Monde. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il dit la phrase de plus, je veux devenir une légende à Newcastle. Pour moi, c'est pas une phrase dans le vent, même s'il faut toujours prendre de grosses pincettes et remettre en contexte les déclarations des footballeurs, bien sûr.
Absolument. Et puis pour revenir sur le Barça, il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est ils ont réussi à faire un recrutement complètement fou cet été, pourquoi pas l'année prochaine? Et bien pour la simple bonne raison que la situation financière du Barça n'est pas bien meilleure, qu'il y a une élimination de la Ligue des Champions qui va quand même coûter très cher, ou en tout cas qui ne va pas rapporter beaucoup, et que les leviers économiques qu'a levé le Barça l'été dernier, bah, ils ne sont pas infinis, ils amputent considérablement le projet. Et le Barça ne peut pas se permettre de refaire une saison de plus, en tout cas un été de plus, ce qu'il a fait l'été dernier. Ça a été fait pour relancer la machine. On imagine mal que le Barça continue là sur cette trajectoire pour s'offrir un joueur comme Guimaraes.
Voilà. Je crois qu'on a tout dit, Julien.
Je crois que c'est le moment, Arthur.
C'est le moment que je redoute, que je n'apprécie plus.
Le moment du Mercacuiz, celui que vous préférez et que nous aussi, on adore, avec Quentin Guichard. Quentin, bienvenue.
Salut,
je suis
messieurs.
Très heureux de te retrouver parce qu'à chaque fois que tu viens, il y a souvent une bonne nouvelle au bout. Je crois que j'ai déjà fait cette accroche, mais c'est pas grave.
Oui, il y a quelques semaines, mais bon, les émissions se suivent et se ressemblent de toute manière, puisque bah, tu enchaînes les victoires. Et les émissions se suivent et se ressemblent pour Arthur.
Ouais.
Parce que les défaites s'enchaînent.
Eh bien, tu sais quoi, c'est pas du tout à ça que je pensais.
Ah!
Les émissions se suivent et se ressemblent parce qu'en fait, je prends beaucoup de plaisir
à te
voir présenter ça, et tellement de plaisir que je voulais te remercier.
Ah,
c'est alors c'est un geste complètement désintéressé.
D'accord. Ouais. Oui, j'imagine.
Attends,
j'imagine.
Que je précise, loin de moi l'idée de te faire compter le point de ma victoire contre Martin cet
été. L'été dernier, bien sûr.
Loin de moi de revoir votre coefficient un petit peu alambiqué.
On
va suivre comme ça avec quelques présents.
Ah, mais alors ça.
Voilà, un maillot de l'OGC Nice. Danilo Barbosa, porté en match, signé par tout le vestiaire niçois. Il est pour toi.
Non, mais ils l'ont signé pour moi.
Ouais, pour toi, bien sûr, c'est marqué pour Quentin, tu liras.
Bah écoute.
Un maillot d'Ali Sissoko, manche longue, Aston Villa, Première Ligue. Hein.
Ah, Première Ligue, Première Ligue. On le salue, Ali Sissoko, qui nous écoute.
J'ai une belle gourde Roland Garros.
À ton nom ou pas?
Non, bah c'est marqué pour Quentin, en dessous, tu verras.
Ah
c'est
oui, pour Quentin, petit... signé. Ah, signé Roland Garros.
Rafa.
Bon bah voilà, bah je crois qu'on a le vainqueur du jour.
Non, attends, c'est complètement désintéressé, c'est juste un remerciement.
Ah, c'est vraiment juste pour me... D'accord.
Voilà. Bon bah écoute, bah merci
tu
beaucoup.
Tu sais quoi? J'ai envie de laisser gagner pour qu'il perde tout ça alors qu'il en avait pas
vrai.
Besoin.
C'est vrai que t'en avais pas besoin, Romain.
Bah non, après moi j'ai mon... Bah on va le voir par
Allez,
la suite.
On va voir. Voir ça. En tout cas, merci pour tes présents, Arthur.
Avec plaisir.
Ça me touche. En plus, c'est des très beaux joueurs. Ali Sissoko et c'est qui l'autre?
Danilo Barbosa.
Danilo Barbosa. Le fils de Cédric?
Bien sûr.
Non, rien à voir.
Le cousin de Cédric?
Non plus.
Ça n'a aucun rapport avec Cédric Barbosa?
Rien à voir.
Bon.
Quentin, ouais. je suis sous le choc, là.
On est désemparés, ouais.
Est-ce que tu peux nous rappeler les règles, le règlement. Je crois que c'est le moment de le rappeler.
Je crois que c'est le moment de rappeler.
Je pense qu'il a oublié la ligne ne pas soudoyer.
La règle du jeu. Alors non, il n'y a pas du tout de ligne ne pas soudoyer.
Ah d'accord. Okay.
C'est vraiment.
C'est bien, ça a l'air bien parti pour moi, ce Mercacouis.
Le principe du Mercacouis, c'est très simple. Je vais vous dérouler la carrière d'un joueur et le premier de vous deux qui trouve.
Ah, tu l'as pas fait comme d'habitude.
Le nom du 10 joueurs. Du 10 joueurs, eh bien, remporte.
Ah,
remporte...
c'est 10 joueurs maintenant.
Non, c'est un joueur, mais le susnommé. Le joueur susnommé remporte un point.
La soumission.
Enfin, un point ou un coefficient ou tout autre. Je crois qu'on est en perdition avec ce classement du Mercacouis. On va y revenir après. En fin d'émission.
Règle Pereira Morin.
La règle Pereira Morin.
J'ai oublié de tout faire.
Non, mais attends, c'est du passe-plat. C'est de la télé. On est à la théoche. Et on est en podcast.
On est en podcast.
La règle Pereira Morin, bien sûr, c'est la proposition. La proposition d'un nom avant même le tout premier indice. Et souvent, bah, c'est complètement à côté de la plaque. Mais le jour où...
Eh ben, c'est aujourd'hui.
Ah, alors, le jour où on va trouver le joueur...
Alors, je laisse Arthur, comme ça laisse un petit peu de suspense.
Bah, tu voulais pas participer un petit peu, parce que là, je vais gagner...
Ah, d'accord.
Vas-y, je t'en prie.
Alors, j'ai regardé Gomorra il y a pas si longtemps.
D'accord.
Gomorra, Chiro.
Oh,
Chiro Immobilier.
Chiro Immobilier, voilà. D'accord. Non.
Non, toujours pas du tout.
Mais c'est bien de voir des signes un petit peu
ouais,
partout.
Ouais, bah, je me rapproche ce que je peux.
Ouais.
Pour moi, c'est Rafael Guerrero.
Oh, Rafael Guerrero. Eh ben non, ouais. Non. Mais c'est pas mal. C'est des jolis noms et on les salue.
Absolument.
Vous êtes prêts, messieurs ?
Allons-y.
Allez, on y va. Assez parlé. Cette chronique a assez duré. J'arrive en métropole à l'âge de 11 ans. En mai 2002.
Dimitri Payet.
Alors que je suis joueur au Stade Olympique Millau Football, je ne suis retenu qu'en liste d'attente au Pôle Espoir de Castelmaurou.
Attends, on est en quelle année, pardon ?
On est en mai 2002, là.
Mais je comprends pas.
Mais il a 11 ans.
D'accord, ok. Mm.
Finalement, je n'intègre même pas le centre du Pôle Espoir.
Super.
C'est finalement au Rodez Aveyron Football, équipe de nationale, que je m'aguerris à tout juste 18 ans.
Benjamin Cornier ?
Lors de la saison 2007-2008, non. J'inscris un but en 24 matchs.
C'est pas mal.
Ouais, ça va nous aider.
Mm. Incisif au sein de la formation aveyronnaise, je suis remarqué par le FC Nantes, qui me recrute en 2008.
Corchia ?
Afin de disposer de plus de temps de jeu, je rejoins Troyes, alors en national, dans le cadre d'un prêt de 6 mois sans option d'achat en janvier 2010. De mon passage à Troyes, mon entraîneur Patrick Rémy se souvient de mes blessures, certes, mais aussi de mes qualités indéniables. De retour à la Beaujoire, pour la saison 2010-2011, je joue à 15 reprises en championnat de Ligue 2, inscrivant à l'occasion 5 buts, dont 4 lors de mes 4 premiers matchs.
On est en quelle année ?
On est en 2010.
Okay.
J'obtiens par ailleurs le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 2 du mois de novembre 2010. A noter également, lors de la 27e journée disputée face à Ajaccio, je participe à une bagarre générale qui a lieu lors de ce match. Je suis sanctionné après visionnage des images.
Après quoi, pardon ?
Après visionnage des images.
Ah, j'avais pas compris. C'est bien, c'est Joey Barton ?
Non, ce n'est pas Joey Barton qui n'a jamais joué à Rodez. Et donc, il écope, après visionnage des images, donc, d'un match de suspension ferme plus 1 avec sursis.
Très bien. C'est important parce que ça va nous aider.
Ouais.
Après, je suis perdu, mais...
Après 28 matchs joués pour 5 buts marqués avec les Canaries, je signe à l'été 2011 chez le champion de France en titre, le LOSC, Lille.
C'est pas Payet, j'ai dit tout à l'heure.
Je découvre par la même occasion. Là, tu peux le proposer une troisième fois.
Dis-le, c'est Dimitri Payet.
Tu veux
bordel.
Que je te dise que c'est Dimitri
Il arrive Payet. En métropole, Lille, Nantes, tout ça, c'est Payet, je suis désolé.
Eh ben, c'est Dimitri Payet.
Non,
c'est pas du tout Dimitri Payet. Donc, je signe à Lille. Et je découvre par la même occasion la Ligue des Champions, mais je reste malheureusement muet durant toute la campagne européenne, malgré 5 matchs disputés.
Kevin Miralas.
Et il me faudra attendre mars 2013 pour inscrire mon premier but en Ligue 1 face à Bordeaux et le deuxième dès la semaine suivante sur la pelouse de Valenciennes. En janvier 2015, je suis prêté 6 mois au Royal Moucron en Belgique où j'inscris 3 buts.
On s'éloigne là.
3 buts en 12 matchs. Mon passage au LOSC n'aura pas été une grande réussite. Je ne suis pas beaucoup décisif lorsque je suis sur le terrain. Je marque seulement 8 buts en 105 matchs avec Lille.
Super. Eh ben, ça nous aide, ça encore.
En août 2015, je suis prêté pour un an au Stade Malherbe de Caen. Dès mon premier match face à Troyes, j'offre ma première passe décisive pour Julien Ferret pour une victoire 3-1.
On salue Julien Ferret. Très élégant.
Lors de la journée suivante contre Montpellier, j'inscris mon premier but sous mes nouvelles couleurs lors d'une victoire 2-1. en septembre 2015. En septembre 2015, je marque mon second but avec les couleurs normandes lors d'un match face au Gazélec Ajaccio, on parle bien de Ligue 1, remporté 2-0. Régulièrement titulaire au poste d'ailier droit, je réalise la meilleure saison de ma carrière puisque j'inscris 10 buts en Ligue 1 sur une seule saison, après n'avoir marqué que 8 buts toutes compétitions confondues avec Lille et toutes saisons confondues.
Je crois qu'on se dirige vers un match nul là.
En juillet 2016, je suis transféré définitivement au Stade Malherbe de Caen. Et je me distingue, notamment, en inscrivant un but face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, lors de la 91e minute de la saison, sortant ainsi les malherbistes de leur position de barragiste et leur offrant le maintien. Célébré en héros par toute la Normandie, je boucle la saison avec 9 buts au compteur, ma deuxième saison la plus prolifique en Ligue 1. En août 2018, je quitte Caen pour l'En Avant Guingamp.
Mais oui. Rodelin.
Oh
oui.
Ronny Rodelin.
Bordel, j'ai sa tête depuis 10 ans. Là.
Ronny Rodelin, magnifique. Alors voilà,
elle fait du bien. Je vais pas vous mentir, celle-ci.
C'est vrai qu'il est passé par Lille.
Il est passé par Lille, ouais, pendant de nombreuses.
Mais Ronny Rodelin qui a marqué un but extraordinaire il y a pas si longtemps. Il est en Suisse.
Mais
je
bien
crois.
Sûr. Exactement. Moi,
c'est le but au parc, là. Je l'ai en tête encore.
Et oui, on se souvient de ce match.
Multiplex de la 38e journée.
Ah, ouais, bien sûr.
Oh, but au parc.
But.
Vous faites vachement bien la musique du multiplex. Je suis très content parce que Arthur, du coup, a payé deux maillots. Pour rien.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a une astérisque.
Non, parce que toi, t'aimes pas trop l'OGC Nice en plus, c'est pas ton.
Alors, j'aime tous les clubs. Parce que voilà, j'aime le football. J'aime le ballon.
Je récupère juste Aston Villa parce que je l'aime bien en termes de couleur.
Oui, c'est vrai qu'il est sympathique.
Voilà.
Ah, tu me laisses vraiment Nice. C'est dit, c'est enregistré. Hein. On ne revient jamais sur des paroles enregistrées. Arthur, tu le sais.
Ouais.
Mais Arthur, ça y est. Et là, je peux enfin sortir ma punchline.
Je suis content.
Il est enfin devenu le roi du Merca Quiz.
Le roi Arthur, bien sûr.
La question est maintenant de savoir où se situe Arthur dans le Merca Quiz ranking, et c'est une question sans réponse.
Ouais, en fait, on dit la vérité à nos auditeurs déjà.
On va dire la vérité.
Pour tout vous dire, on recherche depuis des semaines le moyen de lier le pourcentage de victoires au nombre de participations. En tout cas, le nombre de victoires au nombre de participations, d'établir une sorte de coefficient pour qu'on trouve un classement juste. Donc, si parmi vous, il y a des génies en mathématiques,
et je suis sûr qu'il y en a.
Dans notre rédaction, il n'y a pas de génie en mathématiques,
il n'y a pas de génie tout court.
N'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux si vous avez une idée pour nous faire un classement sympa avec un coefficient pour que le tout soit super juste.
Voilà.
Que ce soit Cédric Villani. Ou qui d'autre?
Bertrand Renard, des gens qui manient les chiffres à la perfection.
C'est un très bon exemple.
Après, j'ai eu 14 en maths au bac.
Oh.
Et je ne suis pas sur le site jesuismort.com.
Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai
que beaucoup
qu'on a...
des mathématiciens qu'on a cherchés sont sur le site, malheureusement.
Voilà.
Jesuismort.com.
Un très beau site.
Ouais.
Mis à jour régulièrement.
Je ne suis pas sûr que c'est une très bonne pub, mais peu importe.
Et puis je crois qu'il est temps de clore cette émission après cet appel. Donc voilà, un Cédric Villani,
un Mac Lesguy,
ça peut fonctionner.
Un Jamy
Gourmaux.
Jamy, on connaît la physique, tout ça, je pense qu'il
bien
pourrait
sûr. Y arriver. Bien sûr.
Sur ce, c'est la fin de cette émission. Merci à toi, Quentin, pour l'identité visuelle.
Merci à vous, messieurs.
Merci, Quentin.
Mercredi Mercato. Merci à Marion pour la régie. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À mercredi prochain.
Ciao.
Salut.